RFI, grand reportage, Philippe Couve.
Ce reportage tient à un hasard, à un pays et à deux hommes. Le premier est mort assassiné il y a 31 ans en Afrique du Sud. Le second est vivant, c'est un journaliste français et il se souvient de l'autre, de sa mort, de ce moment particulier dans l'histoire de ce pays, l'Afrique du Sud, qui n'était pas encore la nation arc-en-ciel. Nous roulons en voiture dans le sud de l'Afrique du Sud. L'océan Indien n'est pas bien loin, le paysage est vallonné. J'accompagne Pierre Aski, c'est lui, le journaliste français.
On est en route vers King Williamstown, qui est une localité de l'est de la province du Cap. Et tout à côté de King Williamstown, il y a un township qui s'appelle Ginsberg, et qui est le lieu de naissance et de mort, et d'enterrement en tout cas de Steve Biko. Steve Biko, c'est un retour en arrière de 30 ans. C'est un jeune dirigeant noir d'Afrique du Sud, de ce qu'on appelait à l'époque le mouvement de la conscience noire, le Black Consciousness Movement. Black Consciousness Movement, c'est un mouvement qui est né dans les années 70 en réaction, une nouvelle génération en réaction à l'apartheid. C'est-à-dire que le message principal, c'était la fierté noire dans un système qui rejetait la majorité noire dans un statut de citoyen de deuxième zone, voire encore pire. Et cette nouvelle génération est arrivée en disant on est fier d'être noir, un petit peu à l'image de ce qui s'était passé aux États-Unis un peu plus tôt, Black is beautiful. Et ça a eu un message très politique très vite. Et il est clair que le mouvement de Soweto en 1976, qui a été de fait le début du compte à rebours vers la fin de l'apartheid, a été largement inspiré par cette jeune génération, beaucoup plus que par l'ANC qui était à l'époque en exil ou dans la clandestinité, qui avait beaucoup moins d'impact sur la réalité. À l'époque, j'étais jeune journaliste, correspondant de l'agence France Presse en Afrique du Sud. J'étais arrivé en 1976 et j'avais vécu les premiers mois de cette période très 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 agitée, très chaude, très très sanglante aussi. Il y a eu des centaines de jeunes Sud-Africains qui sont morts. Et Steve Biko était vraiment un des personnages phares de cette époque. C'était un leader charismatique, brillant et qui avait vraiment une influence énorme. Et en 1977, il a été arrêté et battu à mort par les policiers. Alors c'est terrible parce que ils n'ont d'abord pas voulu dire comment il était mort. Le chef de la police avait dit qu'il s'était cogné la tête contre les murs de désespoir. Puis le ministre de la Justice avait ironisé en disant que ça le laissait froid. Enfin bref, c'était un vrai scandale. Et je suis allé à ses funérailles parce que je sentais que dans la communauté noire, ça avait eu un impact colossal. Et ces funérailles ont été un des grands moments, je dois dire, de ma vie de journaliste. Il y avait une ferveur, une émotion, une intensité que j'ai rarement retrouvée ailleurs. Et il y avait dans cette toute petite ville, c'est minuscule, le township où il est enterré, il y avait 20 000 personnes qui avaient réussi à passer malgré tous les barrages de police parce qu'ils essayaient d'empêcher les gens de venir d'ailleurs, et qui se pressaient dans un stade minuscule. Et lorsque le cercueil est arrivé, c'était un cercueil en bois sur lequel avait été gravé le symbole de la conscience noire, c'est-à-dire deux points noirs avec des chaînes et qui avaient brisé les chaînes. Et lorsque le cercueil est apparu, il y a eu tout le monde se pressait, se bousculait pour le toucher. Ça a été vraiment une ferveur incroyable. J'étais venu à cette conférence Highway Africa qui se déroule à Grahamstown, qui est à une centaine de kilomètres de King Williamstown. Et je me suis dit, je ne pouvais pas ne pas retourner sur ce lieu et d'une certaine manière, non seulement rendre hommage à Steve Biko moi-même, parce que c'est quelqu'un que je trouve éminemment respectable et qui a en très peu d'années marqué d'une pierre l'histoire de ce pays. Et je pense que j'avais envie de le revoir, à la fois pour des raisons personnelles et aussi reparler de lui, reparler de sa mémoire et de ce qu'il a pu représenter. Ce qu'il représente toujours, parce que on constate qu'il y a toujours une grande émotion dès qu'on parle de Steve Biko avec des Sud-Africains d'une certaine génération qui arrivent à passer ce message aussi aux plus jeunes aujourd'hui.
Steve Biko, derrière le mythe, Pierre Aski se souvient aussi d'un jeune homme, un étudiant en médecine.
Steve Biko était un étudiant en fin d'études. Je me souviens quelques semaines avant sa mort, je passais dans la région et je l'avais appelé et pour demander à le rencontrer. Alors c'était très difficile parce qu'il était banni, c'est-à-dire il était assigné à résidence, il n'avait pas le droit de rencontrer plus d'une personne à la fois. Mais bon, c'était possible de temps en temps de l'interviewer. Et quand je l'avais appelé, il m'a dit « Écoute, je prépare un examen, je vais passer terminer mes études prochainement. Et là, je suis en pleine révision, c'est pas possible. » Et c'est assez drôle d'imaginer voilà, un homme qui a joué un rôle historique dans le renversement de l'apartheid et qui était en train de terminer ses examens au moment où la police l'a tué et l'a assassiné.
Nous voici à King Williamstown, une ville industrieuse et sans charme. Ici, on la surnomme King, tout simplement, même si rien n'est vraiment royal. À l'entrée de la ville, en contrebas, sur la droite, presque en face de la station-service, se trouve le cimetière de Ginsburg. C'est là que Steve Biko est enterré.
Alors, nous sommes arrivés au cimetière, qui a été visiblement organisé comme un mémorial. Ça s'appelle le Jardin du Souvenir, Steve Biko, le Jardin du Souvenir, avec une citation de Steve Biko qui est assez belle. C'est « Il vaut mieux mourir pour une idée qui vous survivra plutôt que de vivre pour une idée qui mourra ».
Les cimetières étaient séparés aussi à l'époque de l'apartheid.
Oui, bien sûr, on vivait séparés, donc on mourait aussi séparés. Mais c'était aussi le résultat de la séparation physique des townships, c'est-à-dire que les gens vivaient à des kilomètres les uns des autres. Il y avait le quartier d'habitation noire, le quartier d'habitation blanche, le quartier métis, le quartier indien. Bref, toute la hiérarchie de l'apartheid était respectée à tous les niveaux, y compris évidemment pour les cimetières.
Pour tous les gens qui travaillent pour les droits de l'homme, et spécialement pour Steve Biko.
Steve Biko, un nom qui a résonné au cours des années 80 dans toutes les manifestations anti-apartheid en Afrique du Sud et partout dans le monde. Biko, le titre d'une chanson de Peter Gabriel. Plus de 30 ans après sa mort, il existe une fondation Steve Biko à King Williamstown. Et la petite maison du township de Ginsburg, où vivait la famille Biko, est en train d'être transformée en musée. Nous y allons, accompagnés de Jongi Oza. Pieraski cherche à comprendre pourquoi cet homme de 35 ans tente de faire vivre la mémoire de Steve Biko. Jongi Oza n'avait pourtant que 4 ans lorsque le leader noir a été assassiné.
So, what does it mean, black consciousness today? Does it still have a meaning?
I think it is now that
c'est maintenant qu'on a besoin de la conscience noire. La conscience noire, c'est maintenant qu'elle prend tout son sens. Parce que la conscience noire parle d'unité, de solidarité. La conscience noire, c'est la négation de l'égoïsme et de la corruption. La conscience noire nous incite à nous aimer les uns les autres sans chercher à savoir d'abord qui nous sommes. Si vous regardez ce qui se passe dans notre pays et peut-être aussi ailleurs dans le monde, vous comprendrez que la conscience noire a plus de sens aujourd'hui que jamais auparavant.
Pieraski s'interroge sur ce qui reste du message de Steve Biko dans l'Afrique du Sud d'aujourd'hui.
Oui, ça c'est ce que vous pensez. Être libre, c'est un processus. L'idéal de la conscience noire, c'est que les gens soient libres. Et d'une certaine manière, nous avons obtenu la liberté en 1994. Mais que faisons-nous de cette liberté? Maintenant, nous sommes assis à attendre que quelqu'un s'occupe de nous. Nous avons des leaders corrompus. Les défis qui attendent les jeunes aujourd'hui sont différents de ceux de 1976. Les jeunes sont confrontés au chômage, au virus HIV, à la criminalité. Maintenant, les gens sont égoïstes. Ils ne veulent pas s'entraider. Tout le monde veut être le premier dans la file d'attente pour obtenir quelque chose pour soi-même, pour sa famille. C'est ça qui se passe dans le pays en ce moment.
Steve Biko,
On behalf of the African National Congress of South Africa, I come to salute you and all the comrades in arms who have been murdered under torture.
There may be many reasons given as the cause for his death. Some may have said that he might have died from cerebral contusion. There are others who say that he died from hunger. And I say he died from hunger.
Le 25 septembre 1977, le jeune journaliste Pierre Aski est là pour les funérailles de Steve Biko dans le stade de King Williamstown.
Je revois la photo des funérailles, donc avec ce cercueil et le drapeau du mouvement de la conscience noire, avec des milliers de personnes, le poing levé, le portrait de Steve Biko et qui essaie de le toucher, qui le salue, et c'est donc cette avancée très lente au milieu de la foule.
Il y a une véritable marée humaine qui semble porter ce cercueil.
Oui, complètement. Il était vraiment porté par une foule, par une émotion, par un choc et un dégoût de ce qui s'était passé, parce que ça a vraiment provoqué des réactions. Il y a d'ailleurs la une du journal local, le Daily Dispatch, qui est le quotidien d'East London, qui est la grande ville voisine. Et le rédacteur en chef du Daily Dispatch s'appelait à l'époque Donald Woods. C'était un de ces blancs libéraux, c'est-à-dire que sa conscience heurtée, qui était anti-apartheid par humanité, mais qui n'était pas un activiste politique, mais qui avait rencontré Steve Biko, qui avait été fasciné par le personnage. Et lorsque Biko a été assassiné, Donald Woods, je pense, est sorti de ses gonds, c'est-à-dire qu'il s'est transformé en un militant révolutionnaire du jour au lendemain. Il a épousé la cause de la justice pour découvrir qui a été responsable de la mort. Il a commencé une véritable croisade.
Dans son journal.
Dans son journal, mais même à l'extérieur, il tenait des meetings, il allait parler à plein de gens. Et ça lui a coûté très cher, puisque un jour, il a reçu un paquet pour ses enfants, dans lequel il y avait deux t-shirts imprégnés d'acide. Et il a compris le message et il s'est enfui d'Afrique du Sud et il s'est exilé, il est mort en exil à l'étranger, je crois qu'il était en Angleterre. Mais c'est quelqu'un qui a été, dont la vie a été changée, bouleversée par la mort de Steve Biko, alors que dans le climat de l'époque, un rédacteur en chef blanc aurait pour lui dû être un épiphénomène, un de plus dans une longue histoire.
Moi, je suis surpris, d'ailleurs, par cette une du Daily Dispatch, qui présente un portrait de Steve Biko. C'est très informatif en haut. Biko meurt en détention. Et juste en dessous, on voit « Nous saluons un héros de la nation ».
Oui, absolument. Mais c'était très étonnant, parce qu'évidemment, c'est un journal blanc pendant la période de l'apartheid. Et pourtant, parler de Steve Biko comme d'un héros de la nation, c'est hérétique dans le climat de l'époque. Mais ça c'est vraiment la marque personnelle de Donald Woods, et ce qui a fait d'ailleurs qu'il a déclenché les fureurs de l'État. Mais c'est typique, avec en plus un phénomène intéressant, c'est que évidemment les lecteurs du Daily Dispatch, c'était des bons blancs d'Afrique du Sud qui, même s'ils n'aimaient pas trop l'apartheid, parce que c'est une zone plutôt anglophone ici, donc pas africaneur, n'étaient pas non plus des partisans de la conscience noire et des partisans de tout changer de manière radicale. Et donc, je pense que plus d'un lecteur du Daily Dispatch a dû avoir un arrêt cardiaque ce matin-là en ouvrant son journal et voir que sa gentille gazette provinciale s'était transformée en brûlot révolutionnaire. Il y avait les mêmes tribunes, ça n'a rien à changer dans ce stade. À la tribune, il y avait des diplomates américains, même des membres du Congrès, parce que des membres du Congrès américain avaient rencontré Steve Biko et avaient fait tout le voyage pour ses funérailles, pour être présents et marquer leur désaccord. Il faut dire que c'était l'administration Carter, c'est-à-dire une période de l'histoire américaine où les droits de l'homme étaient mis en avant, étaient un véritable porte-étendard de cette administration, c'est il y a très longtemps. Et tout ça avait convergé. Et c'était Desmond Tutu, l'évêque Desmond Tutu, qui avait présidé la cérémonie, et qui avait été très émouvante parce que, vous savez, il y a ce chant qui est devenu l'hymne national sud-africain, Nkosi Sikelé, là, que Dieu bénisse l'Afrique, et qui a été chanté par ces 20 000 personnes qui étaient présentes avec des larmes, des pleurs, de l'émotion. Et voilà, c'était un jour inoubliable. Il n'y avait pas de diplomate français parce que la France à l'époque était extrêmement frileuse. Elle n'osait pas se montrer à un endroit où clairement on était contre le gouvernement. Il y avait des enjeux économiques, il y avait une sorte de réelle politique vis-à-vis de l'Afrique du Sud, et les diplomates français à l'époque ne sortaient pas du cercle du pouvoir et du cercle blanc.
Un an après la mort de Steve Biko, notre voyage touche à sa fin. Pierre Aski a confronté son souvenir et sa jeunesse à l'Afrique du Sud d'aujourd'hui.
C'est très contrasté, c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais très surpris de la rencontre avec cet homme jeune, puisqu'il a à peine 32 ans, qui donc n'a pas connu du tout Steve Biko et qui pourtant est complètement influencé par ses idées et estime qu'il est au contraire extrêmement pertinent aujourd'hui dans l'Afrique du Sud des années 2000 de soutenir la conscience noire par rapport à un régime qui a certes apporté la liberté, mais dont il estime qu'il a échoué sur tous les autres plans, et en particulier celui de l'égalité. Mais d'un autre côté, c'est clair qu'on a aussi le souvenir d'une époque révolue et un monument un petit peu désuet à quelque chose qui a été un grand moment d'histoire. Cette petite maison dans le township qui a incarné énormément de choses dans les années 70 est aujourd'hui un monument en dehors de tous les grands courants qui traversent l'Afrique du Sud et qui traversent le continent. On a l'impression d'un souvenir un peu figé dans cette maison, très émouvant pour moi parce que ça m'évoque énormément de souvenirs. Donald Woods, le rédacteur en chef de ce journal, ses funérailles qui ont été un grand moment, mais en même temps je n'ai pas la certitude, malgré ce que dit ce jeune homme, que ça parle à l'Afrique du Sud d'aujourd'hui.
Steve Biko appartient à l'histoire. Nous repartons. King Williamstown s'estompe derrière nous. Merci à Pierre Aski d'avoir rendu ce reportage possible. Un reportage de Philippe Couve, réalisation Marc Minatel, à la technique Joël Hermand.